Quand vous voyez. Bien bonjour, je me réjouis d'être avec vous. Alors je ne vais pas vous parler de science aujourd'hui, bien qu'il n'y a rien d'interdit de le faire dans un culte, hein, je l'ai déjà fait, mais je vais vous parler de mon cœur de pasteur, de berger, de ce que Dieu a fait dans ma vie ces dernières décennies et comment il a changé ma vision de l'Église. Vous pouvez envoyer, c'est... Voilà. Alors, je vais vous parler d'une église apostolique et prophétique. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors, bien sûr, on peut s'appeler comme ça. Il y a même une dénomination, et c'est très bien, parce que toutes ces dénominations, elles ont chacun rappelé une partie de l'Évangile. Chacun, les baptistes ont ramené une partie qui manquait. Les apostoliques, ils ont rappelé qu'il y avait les ministères d'Éphésiens 4 et que Dieu avait donné des hommes en don à l'Église, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des apôtres d'abord, bien sûr, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes. Mais ce n'est pas le tout de nommer des gens, comme parfois on se limite à ça. Ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient profondément imprégnés de ça. Et vous verrez pourquoi j'ai appelé ça « suivre loi sauvage » à la fin. Alors, moi, au départ, j'étais un ingénieur, un chercheur. Je n'étais pas directeur du commissariat à l'énergie atomique, j'étais directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, soyons modestes. Mais j'ai eu une carrière passionnante, j'ai pris ma retraite il y a un an. J'étais aussi professeur. Et pendant longtemps, je m'occupais des hommes d'affaires du plein évangile, là où on s'est rencontrés. Et puis, je ne me sentais pas du tout appelé comme pasteur, parce que j'avais un certain a priori un peu anti-ecclésiastique, j'allais dire. J'avais vu des choses qui n'étaient pas toujours ce qui me plaisait. Donc, et puis, il se trouve qu'en l'an 2000, je revenais du Japon, et dans l'avion, on est près du ciel. En fait, on sait simplement qu'on a du temps, et on était coupé des autres moyens de communication, ce qui fait qu'enfin, on a du temps pour Dieu, parce qu'on n'est plus dans le bise qui vous prend tout le temps, le téléphone, le machin, le truc. Et donc, c'est là que Dieu m'a parlé. C'est pas parce qu'on était plus près du ciel, c'est pas j'avais du temps. Et Dieu m'a dit, reconnais l'église que j'ai fait dans ta maison. En fait, les gens se convertissaient souvent chez nous. Et puis, on leur disait, ben, essayez de trouver une église. Alors, si vous voulez une adresse, voilà à Nîmes, voilà à Avignon, voilà à Alès, vous pouvez aller là, là, là. Ils y allaient pas, puis ils revenaient. Non, j'ai pas envie. Non. Puis on dit, mais si, vous pouvez pas rester comme ça. Allez dans une église. Si vous voulez d'autres adresses, vous en donnez à Pierre-Latte, je sais pas. Et Dieu m'a parlé, m'a dit, arrête de les envoyer à droite, à gauche. Et reconnais l'église que j'ai fait dans ta maison. Et prends soin de ceux que je t'envoie. Alors, quand Dieu vous parle, vous pouvez pas dire autre chose que d'accord. Hein. Donc, j'ai dit d'accord. Et alors, entre 2000 et 2003, j'ai fait ce que je savais faire, ce que j'avais vu faire, ce que autour de moi on avait fait, c'est-à-dire une bonne église évangélique. Donc on avait des cultes tous les dimanches à 10h, des études bibliques le mardi à 20h, de la prière le vendredi soir, enfin, le bon truc évangélique, quoi. Classique que j'avais fait pendant des années. Et au bout de 3 ans, j'étais assez frustré parce que j'avais prêché sur à peu près toute la Bible. En 3 ans, on arrive à peu près à faire le tour sur beaucoup de choses. J'avais prêché sur le fruit de nos paroles et les gens continuaient à médire. J'avais prêché sur le pardon, les gens ne pardonnaient pas. Et donc, ils savaient tout, mais ça ne changeait pas leur vie. Et j'étais assez frustré. En plus, ma femme s'ennuyait et disait, mais une énième étude biblique sur ces sujets, ça me gonfle. voilà, donc, et j'ai été dans le Nord, voilà, une rencontre, et c'est un anglais que Dieu a utilisé pour parler à mon cœur, et je vais vous parler de ce qu'il m'a dit. Il a dit, quand je viens en France, je visite les églises évangéliques, elles ressemblent à des manèges. Un manège, ça tourne, tu reviens un an après, ça tourne. Tu as toujours une réunion, le culte à 10h, tout est prévisible. Et puis, tu reviens 5 ans après, le manège tourne. Donc, il me parlait d'église manège qui était comme ça. Vous allez, vous venez, et le manège tourne. Alors, de temps en temps, il y a un événementiel qui fait monter l'adrénaline. On invite Billy Graham, il est peut-être pas ici, mais on met le grand écran pour ça, ou je sais pas qui. Et là, pof, l'adrénaline monte, on attrape le pompon, tout le monde s'excite un moment. Et puis, le lundi, ça retombe un peu, le mardi, beaucoup plus, et le mercredi, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je trouvais que c'était peut-être un peu dur, mais ça décrivait quand même pas mal ce que je vivais. Et ça m'a fortement remis en question. En fait, il nous disait, l'Écriture nous dit, dans 1 Corinthiens 12, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons, etc. Et c'est ce petit premièrement, deuxièmement, que moi, parfois, je sautais allègrement. Parce que finalement, il y a des choses, des petits détails, pour nous, ils ne sont pas importants. Mais je crois qu'il n'y a pas de petits détails pas importants pour Dieu. Je crois que tout ce qui est écrit est utile. Et que ce petit détail, je l'avais négligé. Et il disait, quand on n'a pas les choses dans le bon ordre, la fondation n'est pas d'aplomb. Alors si votre maison, la fondation n'est pas d'aplomb, vous allez essayer de construire, mais arrivé à une certaine hauteur, toute votre énergie sera pour étayer, pour soutenir la construction qui penche. Vous voudrez aller plus haut, mais ce ne sera pas possible. Toute votre énergie sera pour empêcher la construction de tomber. Donc j'ai mis la tour de Pise et quelqu'un qui essaye de la retenir. Si vous voulez la faire plus haute, elle va s'effondrer. En fait, le fondement, Jésus dit que l'Église doit être édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, est-ce à dire qu'il y a une hiérarchie et qu'il y a des grands ministères et des petits ? Pas du tout. Mais si vous achetez un meuble à Ikea, il n'est pas dit que la porte est négligeable, etc. Mais si vous ne mettez pas dans le bon ordre et vous essayez de commencer par monter les étagères avant d'avoir monté le châssis, ça ne va pas vraiment marcher. D'accord ? Eh bien, je crois qu'il y a un ordre qui doit être respecté et que le fondement de l'Église doit être d'abord apostolique, puis prophétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas nommé de décréter que, je ne sais pas, Luc sera ceci, Régis sera cela, etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est une mentalité que Dieu veut qu'il soit dans l'Église. Le bon fondement, c'est un cœur apostolique et prophétique. Et c'est quoi un cœur apostolique ? Je peux le décrire par comment Dieu parle à Abraham, qui est répété dans les Actes des Apôtres. Dieu lui dit, va, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et en fait, le problème, c'est à notre conversion. Est-ce que on a bien compris que la conversion, c'est quitte ta culture, quitte ta religion, quitte ta famille, quitte tout ce qui était derrière. Tu vas laisser plein de choses derrière. Et va jusqu'au ciel dans un chemin sans retour. Nous, il y avait un Canaan là qui devait conquérir. Il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés. Hein. Mais nous, jusqu'au ciel, c'est un chemin sans retour. Est-ce qu'on a dit aux gens que la conversion, c'était quitte, va, et tu vas marcher, en zigzag. Parce que quand tu regardes le chemin qu'ont fait les Juifs, eh bien, ce n'était pas une ligne droite. C'était des chemins en zigzag. Il fallait suivre la nuée. Quand la nuée s'arrêtait 3 jours, il fallait s'arrêter 3 jours. Mais si elle repartait, que tu restais en ton campement, tu allais tout perdre. Tu allais tout rater. Et il fallait suivre la nuée. Et Dieu nous appelle à une vie d'aventure, une vie de risque. Mais c'est tellement contraire à notre société qui veut une vie avec zéro risque. Qui veut une vie où tout est bien sécurisé. On nous parle du principe de précaution, on a même été assez fous pour mettre dans la Constitution. Donc on demande aux chercheurs de démontrer un non-risque, ce qui est scientifiquement impossible. Il est scientifiquement impossible de démontrer une absence de risque. Donc on a mis à la Constitution de quoi se paralyser totalement. Et on veut vivre dans le risque zéro. Mais la foi, c'est l'inverse. La foi, c'est le risque de croire Dieu dans toute chose. Le risque d'aller de l'avant dans l'inconnu. Je me réjouis qu'il y a une jeune fille qui nous a parlé, là, qui elle va sortir de sa zone de confort. Elle va prendre un risque. Mais comme elle suit la nuée, c'est un risque raisonnable. C'est un risque qui va être fructueux. parce qu'elle sort de sa zone de confort. Je suis sûr qu'il y a des moments où elle va un peu trembler, et déjà peut-être, hein, mais elle a fait le bon choix. Parce qu'elle sait que si tu restes derrière, tu ne pourras pas rentrer dans les promesses de Dieu. Tous les réveils sont des gens qui ont pris du risque. Tous les réveils, c'est des gens qui ont été de l'avant. Mais tous les réveils se sont éteints parce que les gens sont installés dans une routine et ils ont fait une religion catholique, une religion protestante, une religion baptiste, une religion méthodiste. Et tous ces réveils dont vous lisez, Wesley, etc., des choses passionnantes, vous allez dans des églises qui en restent et souvent vous êtes triste de voir qu'il reste une religion, mais que le feu de la nuée n'est plus là. Et Dieu veut aujourd'hui nous pousser à suivre la nuée. Il veut nous pousser à avoir de l'audace, à sortir de nos conforts, de nos habitudes, de nos routines. Et alors, la première chose d'une église apostolique, c'est une église qui est dans « va » et pas dans « vient ». Une église vient, c'est « j'ai un bon local, comment je peux attirer les gens de Guebwiller ici ? Venez, venez à mon culte à 10h, vous verrez comme c'est bien. Venez, venez, venez. » Et pas grand monde vient. Et puis certains viennent d'une porte, ils ressortent de l'autre côté. Mais Dieu n'a pas dit « fais-les venir ». Il a dit « va, va dans les quartiers, va voir s'il y a des gens difficiles à ta porte à côté. Va, va, aime-les. Va, si, préoccupe-toi s'ils n'ont pas de voiture, comment tu peux les aider. Va, va, sors de tes murs, va vers les autres. Sois pas une église, viens, j'ai un club qui marche bien, viens dans mon club. » Parce que vous allez attirer que les chrétiens de passage dans votre club. Vous allez avoir des chrétiens qui viennent s'installer par loin, qui vont dire « Oh, j'ai trouvé une église, c'est sympa !» Mais ça, ils sont déjà chrétiens, ceux-là. Mais Dieu, il a un cœur pour d'autres. Est-ce que vous voulez être une église « va » ou une église « vient » ? Dans une église manège, on est confortablement assis. En général, on est plutôt spectateur qu'acteur. L'environnement est prévisible. Hein. En venant, on ne prend pas trop de risques le matin parce que l'environnement est prévisible, on ne va pas être agressé. Mais il y a peu de vie, peu de défis et peu d'envie. On y vient beaucoup par habitude et souvent peu de fruits, peu de changements. C'était ce que je vivais dans l'église que Dieu m'avait poussé en reconnaître l'église dans ma maison. Les gens venaient un peu, voilà, parce qu'il y avait des réunions après réunions. Ils aimaient les réunions, donc ce n'était pas le problème de ça. Mais finalement, l'Église se résumait à une succession de réunions. Alors Dieu a parlé à mon cœur et il m'a dit « arrête les réunions ». Je dis « quoi ?» Il m'a dit « oui, l'Église, tu vas voir ce que c'est ». L'église, c'est ce qui reste quand tu as tout supprimé. Alors, je voudrais comprendre un peu plus là. Oui, l'église, c'est ce qui reste. Tu vas voir ce qu'il y a comme église quand tu auras tout supprimé. Et tu verras ce qui reste. Alors, bon, d'accord. L'église, ce n'est pas le bâtiment avec la cloche. On est d'accord. Ça, c'est le, ok, on est d'accord. Ce n'est pas les bâtiments. Ça va pas être tout le monde d'accord. L'église, ce n'est pas la dénomination catholique, protestante, orthodoxe, tous les istes, méthodistes et autres. Non. On est à peu près encore d'accord là-dessus. Mais quand tu as enlevé les bâtiments et les dénominations, comment les gens voient l'église ? Vous réunissez à quelle heure ? Vous êtes combien ? Ah, vous avez une église ? Vous êtes combien ? Et c'est à quelle heure les... Vous avez combien de rencontres et à quelle heure ? L'église est assimilée à une succession de réunions. Alors, Dieu a parlé à mon cœur, m'a dit « arrête ». Arrête ? Oui, et tu verras qu'est-ce qu'il y a comme église. Alors, et puis Dieu m'a montré qu'en fait, une église, l'église, les églises manèges, dont je faisais partie, elles étaient fondées sur les enseignants et les pasteurs, souvent qui étaient la même personne. Et ces églises-là, Dieu n'a rien contre les pasteurs et n'a rien contre les enseignants. Mais ce n'est pas le bon fondement. Pourquoi ? Parce que cette église-là, au lieu d'être enracinée en Dieu, elle est enracinée dans le besoin des hommes. Et l'Église était là. Mais j'en sais jamais assez. Il y a une plus grande convention. Ma connaissance. Fais-la enfler, ma connaissance. Mais son cœur n'était pas changé. Ah, enseigne-nous ci, enseigne-nous, habille-lui, passe, on regarde ci, on regarde ça. Je veux toujours emmagasiner de la connaissance. Mais mon cœur n'est pas changé. Et les soins pastoraux, prie pour moi, prie pour moi. Alors après le cul, je prie pour 10 personnes, 20 personnes. Et puis après, il me dit, mais prie pour mon frère, prie pour ma belle-mère, prie pour mon oncle. Et en fait, Dieu me montrait que j'étais piloté par les besoins des gens. Et il m'a dit, t'es pas mon serviteur, t'es au service des besoins des gens. Qui tu veux servir? Tu veux me servir moi ou les gens? Et face aux besoins des gens, j'étais un peu écrasé. Moi, j'avais un peu d'argent, mais des pauvres, il y en avait à foison. J'étais une goutte d'eau dans l'océan. Donc, si je voulais être le sauveur du monde, j'allais m'épuiser, mais sans servir à grand-chose. Et quand j'avais prié pour 10, pour 20, même en supposant qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés, qu'ils trouvent un travail, enfin que Dieu exauce tout, ils m'ont ramené 10 ou 20 autres et c'était sans fin. Et Dieu m'a dit, l'important, c'est dans l'autre ordre. Pourquoi je mets dans le fondement l'apôtre? C'est parce que c'est celui qui est relié à Dieu, puis le prophète. Et ensuite, il y a besoin de ministères connectés au monde. Le pasteur, il est entre les deux. Et après, t'as l'évangéliste qui est connecté encore plus avec le monde. Et il y a besoin du trait d'union. Mais le trait d'union, la racine ne doit pas être dans le monde, elle doit être en Dieu. La racine, elle doit être du côté de Dieu. Si tu as mis ta racine du côté du monde, tu vas être submergé par les besoins du monde et tu vas faire un humanisme type Croix-Rouge. Tu vas essayer de tout régler et tu vas t'épuiser sans que ça règle rien. Par contre, si tu es enraciné en moi, je vais te donner la bonne parole, le bon moment. Je vais te dire, va voir lui qui a besoin. Et tu iras au temps convenable et ça portera du fruit. Il fallait inverser l'essence des choses. Alors, je pense que chacun peut se réfléchir, est-ce que je suis enraciné, centré sur le cœur de Dieu ou sur les besoins des hommes? Une église avec un cœur apostolique et prophétique est centrée sur Dieu en premier. Dès le départ, je comprends ma destinée. Pourquoi Jésus était imperturbable? On ne pouvait pas le déstabiliser. Parce qu'il disait, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Son identité était claire pour lui. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes qui ne pouvaient pas être déstabilisés parce que vous savez d'où vous venez, vous savez que vous êtes un pécheur gracié, vous savez que vous êtes un fils, une fille de Dieu, vous savez votre destinée, vous savez que vous êtes appelé à régner éternellement, qu'on dominera les anges, qu'on est appelé à régner dans l'éternité. En fait, quand tu as un cœur apostolique, tu pars comme Abraham qui quitte Ur en Chaldée, tu te retrouves dans le désert. Et là, tu ne sais pas où tu vas. Et là, la tentation, c'est de dire, je suis paumé, j'ai plus d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Et la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, on retourne chez notre mère. On retourne à Ur en Chaldée, on retourne dans nos traditions, on retourne dans nos habitudes, nos routines qui nous sécurisent. Parce qu'il faut attendre avec patience que Dieu nous parle. Parce que si tu n'es pas prophétique, si tu es apostolique sans être prophétique, tu meurs. Parce que quand tu es dans le désert, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu fais quoi? Mais si tu as la patience, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et Dieu va te conduire à l'étape d'après. Mais ça peut prendre du temps. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas Dieu à ton service. C'est toi qui t'es offert au service de Dieu. Donc ça change les choses. Et donc, si tu es apostolique, tu es obligatoirement prophétique, sinon tu ne vas pas le rester longtemps. Tu vas retourner chez ta mère, dans tes traditions, tes habitudes, tes routines. Oui, Jésus savait d'où il vient, où il va. Est-ce que vous le savez vraiment? Ma destinée est de servir Dieu. Ma conversion était un chemin sans retour. Je retournerai jamais en arrière à ce que j'ai laissé. Même s'il y a des très bonnes choses, et je remercie Dieu pour toutes ces bonnes choses. Demain est un jour nouveau. Je vais suivre la nuée. J'ai laissé sans regret tout ce qui est derrière, même le bon, même les bons moments des hommes d'affaires, même tout ça, c'est derrière. Je ne vais pas essayer de le reproduire. Je vais suivre la nuée. Est-ce que vous avez cette mentalité? Et alors, la deuxième question, quand est-ce que Dieu vous a parlé la dernière fois? Si ça remonte à 5 ans, il y a un souci. Parce que vous vivez sur des eaux usées. vous vivez sur la parole qui était donnée il y a longtemps. Mais si vous voulez suivre la nuée, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin, et comme moi j'ai la chance d'avoir une femme qui est assez prophétique, mais on a besoin les uns des autres dans l'Église, parce qu'on n'a pas tout, moi je ne suis pas très prophétique. Mais par la grâce de Dieu, autour de moi, j'ai des gens qui le sont beaucoup plus. Et c'est là que l'Église, on va apprendre à travailler en équipe. On a besoin les uns des autres. En fait, l'Église centrée sur l'enseignement et les soins pastoraux est centrée sur les besoins de l'homme. Elle reste principalement centrée sur moi. Mon salut, ma guérison, mon épanouissement. Elle n'est pas centrée sur le besoin de Dieu, qui a un cœur pour sauver des milliers, qui voit grand, qui ne voit pas avec juste mon salut, mais qui voit la mission, il voit tous ceux qu'il veut atteindre. Et on peut se poser la question, n'avons-nous pas prêché un évangile teinté d'humanisme, hein, cet esprit grec où il faut se réaliser, je viens à l'église pour me réaliser. Si tu viens comme ça, tu vas être un consommateur. Oh ben finalement, cette église, elle n'est pas terrible, là, maintenant il y a plus de guérison, je vais là-bas. Puis, oh, il y a une son qui arrive, il y a plus de louanges, je vais là-bas. Tu vas être un consommateur. Mais, si tu as le cœur de Dieu, tu es encordé dans une équipe et tu dis, on va gagner jusqu'au bout. On ne va pas lâcher la cordée. On est solidaire. On n'est plus consommateur. On ne dit plus, c'est pas bien. On dit, on a un problème. On est une équipe. Comment on peut le régler ensemble? On ne dit plus, oh, c'est nul, ceci ou cela. On dit, il y a ça qui est perfectible. Comment, les gars, on peut faire ensemble pour l'améliorer? Un cœur apostolique, c'est un chrétien qui a renoncé à lui-même, qui a compris que si Jésus, ça revient dans les quatre évangiles. Si quelqu'un veut me suivre chez Jean, ce n'est pas mot à mot, mais ça revient aussi. Mais dans les trois, c'est mot à mot. Puis si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. Le chrétien centré sur l'enseignement et les pastoraux, je l'ai dit, est un consommateur. Et malheureusement, il va devenir très vite critique. En fait, le chrétien avec un cœur apostolique et prophétique va s'exposer, prendre des risques. Et en faisant ça, il va avoir besoin du Saint-Esprit. Dans une situation critique, tu as besoin du Saint-Esprit. Et en ayant besoin, tu vas grandir. Mais si tu te protèges, le chrétien qui se protège s'enferme avec ses démons, avec ses problèmes, avec ses peurs, avec ses problèmes. Et il fait sa propre prison de sa protection. Il est comme une eau qui prend, qui relâche rien et qui devient saumâtre, comme la mer morte. Parce qu'il ne donne pas. Mais si tu donnes, tu donnes. Quand le niveau baisse, ça re-remplit et l'eau devient une eau vive. Est-ce que tu veux te protéger ou est-ce que tu veux donner et Dieu va remplir? Le chrétien qui a un cœur apostolique et prophétique, il mange l'arbre de la vie. Pour lui, la parole de Dieu, ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas une étude biblique. La parole de Dieu, c'est une personne qui lui parle, qui parle à son cœur, et qu'il aime, et qu'il a envie d'écouter. Donc quand il lit, ça change sa vie parce que c'est quelqu'un qui lui parle. Le chrétien qui est basé sur l'enseignement mange de l'arbre de la connaissance. Et il veut toujours en savoir plus sur la Bible. Et il regarde le grec, l'hébreu, le ci, le ça. Il se remplit la tête de connaissances, mais sans s'en rendre compte, même baptisé du Saint-Esprit. Il reste captif de sa compréhension humaine. Et il imite en permanence le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit me fait faire des choses que je ne comprends pas. Le Saint-Esprit me pousse dans des choses qui me dépassent. Mais si je filtre ma lecture de la parole à ma connaissance, quand bien même je serai un érudit, je filtre le Saint-Esprit avec l'arbre de la connaissance. Et je limite la vie de Dieu. Mais si je fais des choses que je ne comprends pas, en disant, il y a des choses qui me dépassent, mais je les fais avec foi, je libère la vie de Dieu. Quand je prends la Sainte Seine, je ne comprends pas. Alors au début, j'avais des discussions théologiques, parce que je venais d'un background où ma mère était catholique, mon père protestant. Alors les uns disaient que c'était la substantialisation, où ça se transformait de manière magique. Les autres disaient non, non, c'est juste un symbole, etc. Donc je pouvais faire des guerres de religion, parce que entre mon père et ma mère, je connaissais les deux points de vue. Donc je pouvais débattre de tout ça. Et puis Dieu m'a montré que tout ça, il s'en foutait. Il m'a dit, crois ce que je te dis. Celui qui mange ma chair, mange ma vie. Crois-le, ça va changer ta vie. Arrête de discuter. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est juste un symbole là? Tu mets un symbole, tu enlèves. Mais si tu fais un truc magique, ce n'est pas Dieu non plus. Par la foi, crois que tu prends Christ en toi. Reçois par la foi et arrête d'essayer de comprendre. Et là, ça change ta vie. Parce que tout d'un coup, ce que tu as pris par la foi t'impacte, te transforme. Ce n'est pas une connaissance intello. Une église avec un cœur apostolique et prophétique dévoile les pensées du cœur. Ça, c'est quelque chose qui est une clé dans nos églises, entre celles qui vont porter du fruit et celles qui ne vont pas en porter. Là où il y a le Saint-Esprit, les pensées du cœur sont révélées. Il y a des paroles prophétiques. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Les pensées du cœur sont révélées. Ananias et Saphira, les pensées du cœur sont révélées, ils tombent morts. Là où il y a le Saint-Esprit, les pensées du cœur sont révélées. Et les gens vont être changés, transformés. Mais sinon, on va juger de l'extérieur les comportements. Oh, lui, il a passé un alcoolique, hein, regarde comment. Lui, oh, gna gna gna. Et on va juger sur l'extérieur. On va juger des comportements. Et on va prêcher c'est bien, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien de boire, hein. Mais tu crois que l'alcoolique, il ne le sait pas, que c'est pas bien de boire, il n'a pas besoin que tu lui dises. Mais si Dieu ne te donne pas une parole, pourquoi il boit, tu ne pourras rien pour lui. Alors arrête de lui dire que ce n'est pas bien de boire. Mais crie à Dieu pour qu'il te montre son cœur. Où est la racine qui fait qu'il noie ça dans l'alcool? Et si les pensées du cœur sont révélées et que tu vas le voir et tu dis, Dieu t'a appelé comme prophète et il veut que tu... Et tu sèmes une espérance, il arrêtera de boire. Simplement parce que tu as ressemé l'espérance qui manquait dans sa vie, pleine de désespérance. Parce que Dieu t'aura montré le projet qu'il avait pour lui. Un de mes amis, qui a un ministère prophétique, était en Suisse dans une convention où on était. Et dans le groupe de louanges, il ne savait rien, lui, il ne connaissait pas les gens. Il y avait un batteur, je crois, ou je sais pas, un musicien qui jouait très très bien. Et qui avait été pris dans l'équipe, alors qu'il n'était pas chrétien, mais uniquement pour ses qualités de musicien. Et lui, il était convaincu que tout le groupe qui avait amené mes louanges étaient tous des chrétiens. Et à la fin, il reçoit une parole pour lui, il va droit vers le gars non chrétien, il dit, voilà, Dieu t'appelle dans un ministère, etc. Et lui, il dit ça. Et l'autre, il va voir ses copains musiciens qui étaient chrétiens, mais il est un peu taré votre gars, là, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il ne sait même pas que je ne suis même pas chrétien, etc. Et il s'est foutu de lui. Le jour même, le soir même, ses paroles ont descendu en son cœur, il a tombé à genoux, il s'est converti. Et les rentrer dans le ministère. Est-ce que tu veux juger sur les apparences et critiquer cette équipe qui a pris un non-chrétien pour la louange? Ou est-ce que tu veux marcher derrière l'onction prophétique qui t'amène à faire des choses folles qui confondent les sages? Une église qui a un cœur apostolique et prophétique s'attache à la relation et à l'unité. Parce que ce qui est important, c'est les gens. L'Église, c'est ce qui reste quand on a tout supprimé, c'est-à-dire les relations. Quand on a supprimé les réunions pour un temps, on a vu, et Dieu m'avait dit, voilà, il y a des endroits, ils font depuis 30 ans des réunions, 4 par semaine, c'est une église pentecôtiste. Et j'ai été voir ce pasteur, il m'a dit, posez la question. Si vous arrêtez les réunions, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout s'arrête, tout disparaît, il n'y a plus rien. Il dit, ça fait 30 ans que vous avez des réunions à tour de bras. Et si ça s'arrête, tout s'arrête. Il m'a dit oui. Les gens savent à peine où habitent les autres, savent même pas le nom de leurs enfants, les enfants du voisin. Ils se disent frères depuis 30 ans, mais ils ne savent pratiquement rien des problèmes au travail de leurs voisins. Et il m'a dit, fais l'expérience, arrête tes réunions. Pendant un temps, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, une partie de l'église a disparu. Il n'y a pas de réunion, c'est nul, on ne vient plus. Et puis une partie, ça n'a rien changé. On se téléphonait, on se soutenait. Comment ça va, Luc? Comment ça va, Étienne? Comment? Et toi? Ouais, tu veux que je vienne? Je prie, d'accord. J'amène tes enfants à l'école parce que t'es malade. Et il m'a dit, voilà, l'église, là, elle est là. Tu l'as vu, ce qui reste? C'est ça, l'église. C'est ces relations, ces gens. Si demain, il y a une persécution, celle-là, ça ne changera rien. Parce qu'elle existe. Mais celle qui était institutionnelle, demain, il y a une persécution, elle est balayée. Il n'y a plus rien. Elle est juste une succession de réunions. Alors après, on a repris des réunions, mais je veille à ne pas rester dans une routine. Dieu nous a créés créateurs. Je prie pour la créativité. Parce que le pire ennemi de l'homme, c'est les routines, les habitudes, la sécurité. Parce que l'homme naturel aime sa sécurité. L'homme naturel ne va pas partir au Mozambique naturellement. Il ne va pas partir dans un pays où, peut-être communiste ou autre, ou islamiste, naturellement. Parce que naturellement, c'est quand même plus confortable d'être assis ici. Mais s'il marche avec le Saint-Esprit, il va faire des choses folles, il va avoir une vie riche, une vie bénie. Parce que Dieu aime ceux qui prennent au sérieux sa parole. Alors, on essaye de faire des choses toujours différentes, et on ne fait pas des cultes tous les dimanches, mais parfois, on n'en fait pas du tout, et j'encourage les gens, mais faites quelque chose, allez-y, allez les uns vers les autres, priez. Et puis après, il y a des rapports, ah ben on s'est trouvé à Montpellier, chez lui, il y a eu ça, on a prié, été guéri. Et les gens, au lieu d'être des assistés, commencent à devenir matures. Et puis, après on a dit, ben, au lieu de faire ça, on va tous chez un tel qui est à 100 km. Et puis on va lui débroussailler son jardin, c'est une vieille dame qui ne peut pas le faire, etc. C'est envahi par les ronces. On a passé une journée débroussaillage. Et l'Église m'a dit que c'était le meilleur culte. Ça a tissé des liens entre jeunes et vieux, etc. Les gens du village étaient scotchés qu'on vienne tous aider cette dame. On a passé des temps formidables. Mais quand on fait ça, on fait des défis. Ça coûte cher d'aller en voiture, etc. Il y en a qui n'ont pas d'argent. Et ça oblige à arrêter de prêcher des choses, mais à les vivre. Ça oblige que celui qui a deux chemises donne à celui qui n'a pas. Que celui qui a des voitures s'occupe de ceux qui n'en ont pas. Que ceux qui ne peuvent pas payer l'essence, on la paye pour eux. Ça oblige à ce qu'on mette en pratique et que l'Église arrête d'être une université théorique, mais que ça soit un champ de travaux pratiques du quotidien où l'Évangile s'incarne au quotidien. En fait, une Église qui est centrée sur l'enseignement va être doctrinale et elle va très vite atteindre des divisions. Je suis sûr que si je trouve des sujets... Je trouve un sujet, j'arrive à vous diviser en deux classes, entre ceux qui croient, post-millénium, anté-millénium. Après, si jamais vous êtes tous d'accord, je trouve un autre sujet, je vous trouve en deux classes. Puis quand j'ai fait deux carrés, je vous recoupe en deux, je trouve un autre sujet, je vous divise en deux. On va parler de délivrance, est-ce que vous croyez ceci ? Allez, je fais encore. Je peux vous diviser autant que je veux, avec les doctrines. Je trouverai toujours un point pour vous trouver deux personnes qui ne pensent pas exactement pareil. Mais la grâce de Dieu... c'est de mettre ensemble des gens qui ne pensent pas pareil et qui ont pensé que l'amour de Dieu est plus important que de penser pareil et qui voient dans un frère, une sœur, la prunelle des yeux de Dieu, même s'ils ne pensent pas exactement comme toi, et qui choisissent de dire « la relation et l'unité est plus importante que les choix doctrinaux ». Je vais, à quoi on va me reconnaître ? À ma bonne confession de foi, a dit Jésus, c'est ça, on vous reconnaîtra à votre bonne confession de foi ? Ou à l'amour que vous avez les uns pour les autres, je ne me rappelle plus bien. Ah, c'était à la bonne confession de foi. Non, c'était à l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront. Alors, est-ce que l'unité, la famille est plus importante ? Dieu m'a beaucoup parlé à mon sujet là-dessus, parce que il y a des moments, quand j'avais raison, je voulais le faire savoir. Mais enfin, Luc, t'as tort, tu vois bien que si, que ça, que... Et je t'ai appelé la preuve par A plus B. Et Dieu m'a vraiment parlé à ce sujet-là. Il m'a dit, qu'est-ce qui est plus important ? Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce qui est plus important ? Que tu lui démontres que tu as raison ou que tu gardes son amitié ? Et puis, si l'amitié est plus important, ben peut-être sur le point où j'avais raison, justement ton cœur sera ouvert pour le recevoir, puis moi, je changerai sur le point où c'est toi qui avais raison. Parce que l'amitié est toujours là pour qu'on s'enrichisse les uns les autres. Mais si j'ai tout cassé, eh bien, d'avoir raison, ça me servait à quoi ? Une église apostolique et prophétique est pleine de désirs. Une église qui est basée sur l'enseignement et les soins pastoraux et religieux et tue les désirs. Attention, le sexe, c'est pas bien. Attention, pas trop manger, pas boire. Oui, pas d'alcoolique. Et on va tuer les désirs. Mais la force motrice de la vie, c'est le désir. Si on se reproduit, si on se marie, c'est parce qu'on a des désirs. Si on mange, c'est parce qu'on a des désirs. Et Dieu ne veut pas tuer les désirs. Il veut que pousser ses désirs soient au service d'une force motrice encore plus grande qu'est le royaume de Dieu. Et que ses désirs soient puissamment encouragés. Mais une église religieuse et doctrinale tue les désirs en permanence. Et après, on s'étonne qu'on est avec des gens frustrés parce qu'on leur a dit « tout est interdit ». Mais Dieu veut, c'est lui qui a créé les désirs. Et il veut susciter le désir. Mais il veut que vos désirs soient changés, que vos désirs soient plus tournés vers l'hédonisme, vers la satisfaction de besoins à court terme, mais vos désirs soient un investissement dans le ciel. Vous allez régner comme fils et filles de Dieu. Il veut que vous viviez votre présent à la lumière de votre futur. Ça encore, c'est une parole que Dieu m'a donnée qui est assez scotchante et qui a formaté ma vie. Parce que pour l'homme naturel, c'est strictement impossible. L'homme naturel ne peut vivre son présent qu'à la lumière de son passé. Son éducation, ses blessures, ses joies, ses succès. Il n'y a que ça qui peut façonner son présent, ce qu'il a appris, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, etc. Et Dieu veut bousculer tout ça. Et il veut que l'homme spirituel vive son présent à la lumière de son futur. Alors, pour vous arriver à comprendre, parce que des fois je suis un peu dur de la feuille, Dieu me parle en parabole, il me donne des images simples pour que j'arrive à comprendre. Il m'a dit, si demain tu reçois une lettre qu'on te nomme ambassadeur de France aux États-Unis, qu'est-ce que ça va changer ? Ben, jusqu'à présent, quand je voyais des trucs sur la géographie des États-Unis, je m'en foutais. Le nom exact des ministres des États-Unis, je m'en foutais un peu. Il y a beaucoup de choses. Tu me disais, il faut apprendre l'anglais, il faut que tu t'améliores, ton accent n'est pas bon, je m'en foutais un peu. Et tout d'un coup, si je sais que dans un an et demi, je suis nommé ambassadeur des États-Unis, je vais vivre mon présent à la lumière de ce futur. Je vais potasser l'anglais, je vais m'intéresser au nom de tous les gens, les différents partis, où sont les États. Mon présent va être formaté par ce futur. Notre futur, vous pouvez le lire dans Daniel, c'est de régir le monde avec Dieu. C'est de faire partie des fils et des filles qui vont régir le monde, qui vont juger les anges. On a un futur extraordinaire. On est appelé à régner avec Christ. Est-ce que tu veux vivre ton présent à la lumière de ton futur ou de ton passé ? Être apostolique et prophétique, c'est croire Dieu, c'est-à-dire vivre ton présent à la lumière de ton futur. Et de marcher comme un fils de Dieu sur cette terre, avec l'enthousiasme des fils de Dieu. Et à ce moment-là, si on te fait un bras d'honneur, si on te fait une crasse, ça ne t'atteint pas. Ton identité n'est pas là. Tu es fils de Dieu. Alors n'étouffez pas les désirs. Juste aidez les gens à les orienter de la bonne manière. Parce que Dieu n'est pas là pour étouffer les désirs. Il est là pour qu'ils soient orientés vers le royaume de Dieu. Mais soufflez, encouragez les désirs. Moi, par exemple, il y avait un jeune dans notre assemblée qui avait des amourettes un peu avec des jeunes filles, etc. Si j'étais arrivé en disant « c'est pas bien, c'est pas bien !» Je dis, mais je l'ai pris entre quatre yeux. Je dis « mais c'est juste normal, c'est formidable que tu aies des amourettes, etc. » Mais regarde la vision à long terme. Regarde comment on va le gérer pour que ça produise un bon fruit pour le royaume de Dieu. Et le gars dit « d'accord. Est-ce que j'ai essayé de tuer ses désirs ?»« C'est pas bien, j'étais mieux qu'une fille, hein !» Non, c'est normal, c'est la vie, c'est super que tu aies des désirs. C'est super que tu aies des amourettes. C'est super que quand tu rougis un peu, quand telle copine vient, 6 mois après, c'est une autre. Parce que, voilà, c'est parce qu'à 16 ans, c'est pas stable. Mais c'est juste normal. Ne le tuez pas. Canalisez-le. Pour que la gloire de Dieu soit au bout du compte. Réjouis. Comment, dans cette relation, tu vas honorer Dieu ? Comment faire pour que ton avenir ne soit pas hypothéqué, mais que tu serves Dieu à long terme ? Et les jeunes peuvent comprendre ça. Ils ne sont pas du tout idiots. Un chrétien avec un cœur apostolique et prophétique, comme il voit avec le regard de Dieu, et que sa préoccupation première, c'est le royaume de Dieu, il voit grand. Le royaume de Dieu, ça couvre toutes les nations. Un chrétien qui est centré sur des soins pastoraux, mes besoins, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, et mon enseignement, il est centré sur lui. Et sa première préoccupation, c'est son assemblée. Mon église, oh, ce qui se passe à porte ouverte, je m'en fous, ce qui se passe, mais moi, mon église, mon. Et il voit petit, mais Dieu voit grand. Les églises qui marchent bien, elles n'ont pas peur de donner leurs membres. Vas-y, je t'envoie, on est d'accord, tu es parti là-bas, il n'y a pas de problème. C'est le royaume de Dieu qui avance, on est heureux. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, si tu es centré sur la vision de Dieu, tu vas voir grand. Et Dieu voit toujours plus grand que ce que nous, on voit. Nous, on limite toujours Dieu. Mais si on est centré sur le cœur de Dieu, on va être étonné que Dieu veut nous utiliser pour des grandes choses. Alors, je finirai sur le titre que j'ai donné, « Suivre l'oie sauvage ». Dans la spiritualité celtique, oie sauvage, a guide glass, c'est le Saint-Esprit. Pour dire Saint-Esprit, ils disent oie sauvage. Et alors, c'est très intéressant, parce que quand tu regardes une oie sauvage, Au premier coup d'œil, c'est complètement du n'importe quoi. Elle fait 2 km, elle s'arrête 3 jours, et puis tout d'un coup, elle en fait 2000. Et puis après, elle est allée au nord, elle revient un peu au sud, elle ne sait vraiment pas ce qu'elle veut, elle se met sur une petite île, elle va rester une semaine. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et puis tu fais une analyse précise. Et tu dis, mais elle est restée là, la température était juste ce qu'il fallait. Elle a pris tant de calories qui lui ont permis exactement de faire les 2000 km qu'elle avait besoin. Et elle avait exactement la bonne nourriture au bon moment. Elle a perdu tant de poids, si elle avait pris quelques grammes de moins, elle ne serait pas arrivée au bout. Et puis là, il y avait une tempête. Elle est revenue en arrière, elle est en train d'abriter. Là, elle a refait ses forces. Et tu te rends compte que ce zigzag erratique était juste parfait. Si tu as suivi le Saint-Esprit, tu vas voir que ta vie est en zigzag. Mais quand tu regarderas en arrière, tu seras époustouflé de combien le Saint-Esprit est merveilleux. Combien le Saint-Esprit t'a amené là, pour là, pour ensuite t'a fait refuser à ce poste parce que ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Pour que dans ce moment-là, tu puisses rentrer dans le nouveau truc qui était justement le plan parfait de Dieu. Et que finalement, ce pourquoi tu avais râlé, c'était encore la perfection de Dieu qui était en train de conduire ta vie, même si ce n'était pas comme tu avais prévu. Alors, je voulais vous appeler ce matin à suivre Loi Sauvage. Et puis, je ne sais pas s'il reste 5 minutes. Alors, j'ai un petit diaporama parce que Loi Sauvage, elle a aussi un autre enseignement à nous donner. Loi Sauvage travaille en équipe. Alors, on peut passer le deuxième diaporama. Loi Sauvage travaille en équipe. Vas-y, avance. Alors ça pourrait paraître idiot qu'elle soit en V, les oies sauvages. Parce que si vous regardez le Tour de France, ils ne sont pas en V, ils se mettent l'un derrière l'autre pour le vent. Pourquoi elles ne se mettent pas l'une derrière l'autre? On t'arrête une seconde, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est expliqué là. En fait, le vrai problème de l'oie sauvage, ce n'est pas d'aller de l'avant, c'est de porter son poids, qui prend le plus d'énergie. Et en fait, quand elles sont en V, le courant d'air du battement d'un oiseau fait un courant d'air ascendant qui soulève celui qui est derrière. Et la formation en V permet exactement de porter le poids de l'oiseau qui est derrière. Si elles étaient en queue, elles le comme nous on l'aurait fait, elles dépenseraient beaucoup plus d'énergie. Vas-y, avance. Elles peuvent ainsi prolonger un parcours de plus de 70% grâce à ça. Quand une oie délaisse la formation, elle ressent rapidement la résistance du vent. Elle va vite rejoindre la résistance du vent. Elle rejoint sa place pour être portée. Comme les oies, lorsque les gens partagent la même orientation, ils ont un sens de la communauté, ils veulent être une famille. Ils atteignent le but beaucoup plus rapidement que si chacun marche en solo. Lorsqu'une oie est fatiguée, elle se déplace vers l'arrière, une autre prend la tête. Des fois, les leaders, ils ont besoin qu'on dit « Tiens, là, je prends le relais, je prends le lead, et moi, je peux me reposer un peu. » Est-ce que vous êtes une équipe, vous savez faire ça? Est-ce que vous savez que l'oie qui est derrière klaxonne en permanence? Mais c'est pas « abruti, t'avances pas !» C'est « vas-y, je suis là !» Et vous savez, moi qui suis un leader, je sais combien c'est important. Parce que je passe mon temps à dire, mais Laurent, qu'est-ce qu'il devient? Il n'a pas rappelé, il vient pas, et lui. Et je pars une énergie folle à me retourner derrière. Mais quand les autres communiquent et me disent, ouais, tiens, on est là, on vient, on sera derrière toi, on prie quand tu es à Mulhouse, c'est ça. Et qu'ils communiquent, ils klaxonnent derrière moi. Je n'ai pas à me retourner, tout le monde. Et c'est ce que font les oies, naturellement. Elles sont toujours là pour dire, ok, on est là, tout va bien, on est toujours derrière, continue. C'est tellement formidable. Quand une oie est blessée, alors elle se pose, mais il y en a deux qui l'accompagnent. On ne dit pas, va crever dans ton coin. Il y a des membres, mais on ne va pas empêcher la mission de Dieu. L'équipe va continuer et elles vont demeurer avec elle jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et si elle meurt, elles vont attendre qu'elle meure pour rejoindre une autre fournée d'oies sauvages qui passe. Est-ce que nous aussi, lorsqu'il y a un blessé, on est capable de prendre soin ou on va critiquer les blessés et on va les achever comme c'est dans certaines églises où on leur tombe dessus à bras raccourcis? Ou est-ce qu'on va savoir les prendre à part, pour les entourer. Alors, toute la Bible nous dit d'apprendre à travers la création. Donc, je fais un petit lien avec ce diaporama sur la création et l'enseignement que j'ai essayé de vous apporter dans l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse.